Claire, insista Clark. Myriam haussa les épaules. Les mâles luisent pour éblouir les femelles, c'est un rituel de séduction. Comme les clins d'œil. Imaginez ce qui se passerait si nous n'avions que cette manière de nous faire des avances. Là-dessus, elle se mit à faire une succession de clins d'œil à Juan Diego, auquel celui-ci répondit en l'imitant, et tous deux éclatèrent de rire. Le docteur Josefa Quintana se mit à rire, elle aussi. Elle envoyait des clins d'œil à son mari de l'autre côté de la table, mais Clark French n'était guère d'humeur. « Les lucioles sont spectaculaires, » insista-t-il, tel un prof chahuté par sa classe. Les clins d'œil de Myriam avaient fait de l'effet Juan Diego. Il bandait. Il devait avoir pris le comprimé de Viagra, et la main de Myriam posée sur sa cuisse y avait sans doute contribué. Soudain, il eut la nette et désagréable impression que quelqu'un respirait au niveau de ses genoux, pas très loin de la main de Myriam. Il se pencha et découvrit Consuelo, la petite fille onate, qui le regardait. « Bonsoir, mister. Il est l'heure que j'aille au lit. »« Bonsoir, Consuelo, » lui répondit Juan Diego. Josefa et Myriam regardèrent à leur tour sous la table. « D'habitude, ma mère défait mes nattes avant que j'aille me coucher, » expliqua l'enfant. « Mais ce soir, c'est une jeune fille qui me garde et je vais être obligé de dormir sans les défaire. »«
Ce n'est pas si grave, Consuelo, » lui dit le docteur Quintana. « Tes nattes survivront à la nuit. »
Mais mes cheveux, ils vont être tout entortillés, se plaignit la fillette.
Viens ici, lui dit Myriam. Moi, je sais défaire les nattes.
Consuelo hésitait à aller vers elle, mais Myriam lui tendit la main en souriant. Elle grimpa sur ses genoux et s'y tint bien droite, les mains jointes.
Normalement, on les brosse après. Et vous n'avez pas de brosse, dit-elle dépitée.
Quand j'aurai défait tes nattes, je lisserai tes cheveux avec mes doigts, dit Myriam. S'il vous plaît, n'allez pas m'endormir comme Pedro.
Je vais essayer, dit Myriam d'un air faussement sérieux, genre je ne te promets rien.
Tandis que Myriam s'occupait des nattes de Consuelo, Juan Diego cherchait Pedro des yeux sous la table, mais l'enfant s'était glissé en catimini sur la chaise à côté de lui. Le docteur Quintana avait quitté sa place, et il l'aperçut debout auprès de Clark. La plupart des adultes s'étaient levés. On tirait les tables pour ménager une piste de danse au milieu de la salle. Juan Diego n'aimait pas regarder les gens danser. La danse n'est pas un plaisir pour les éclopés, même par procuration. On alla coucher les autres enfants de l'âge de Pedro et Consuelo. Les adolescents avaient quitté leur table et quelques adultes y avaient pris leur place. Dès les premières notes de musique, les jeunes seraient de retour, Juan Diego en était sûr. Mais pour le moment, ils avaient disparu et faisaient ce que font les jeunes de leur âge.
À votre avis, qu'est-ce qui est arrivé au gecko derrière ce tableau, mister ?
Demanda furtivement Pedro à Juan Diego.
Eh bien, j'ai regardé, il n'est plus là.
Ah, il a dû partir chasser quelque part.
Il n'est plus là.
Peut-être que la dame l'a tué aussi, murmura le garçon.
Non, non, ça m'étonnerait, Pedro.
Mais l'enfant avait l'air convaincu que le gecko avait disparu pour toujours. Myriam avait défait les nattes de Consuelo et passait une main experte dans la chevelure noire et épaisse de la petite fille. «
Tu as de très beaux cheveux, Consuelo. »
L'enfant se tenait moins raide sur ses genoux. Elle luttait contre le sommeil et réprima un bâillement.
« C'est vrai que j'ai des beaux cheveux. Si un jour je me fais enlever, mes ravisseurs me les couperont pour les vendre. »«
Qu'est-ce que tu racontes? Ça ne risque pas de t'arriver. » »«
Est-ce que vous savez tout ce qui va vous arriver ?»
Juan Diego, Dieu sait pourquoi, retenait sa respiration. Il attendait la réponse de Myriam, il ne voulait pas en rater un seul mot.
« Moi, je pense que la dame, elle sait tout, » lui murmura Pedro à l'oreille.
Soudain, Juan Diego eut la certitude que Myriam savait prédire l'avenir, même s'il doutait, contrairement à Pedro, qu'elle ait trucidé le gros gecko. Il lui aurait fallu une arme plus redoutable que la fourchette à hors d'œuvre. Et tandis que Juan Diego retenait son souffle, Pedro et lui contemplaient Myriam en train de masser le cuir chevelu de Consuelo. Plus le moindre nœud dans la chevelure luxuriante de la fillette, plongée dans un état de profonde léthargie. Les yeux mi-clos, elle semblait avoir oublié qu'elle avait posé une question à Myriam. Pedro, lui, n'avait pas oublié.
« Allez-y, mister, vous devriez lui demander, » dit-il à voix basse. « Elle est en train d'endormir Consuelo.
C'est peut-être ce qu'elle a fait au gros Gecko. Est-ce que tu... commença Juan Diego, mais sa bouche était pâteuse et sa parole embarrassée. Est-ce que tu sais vraiment tout ce qui va se passer? Avait-il l'intention de demander à Myriam, mais celle-ci posa un doigt sur ses lèvres pour le faire taire. Chut! La pauvre enfant devrait être au lit, murmura-t-elle. Mais vous, entreprit Pedro, il n'alla pas plus loin. Juan Diego vit le Gecko chuter du plafond. C'était un petit spécimen, cette fois, qui atterrit sur la tête de Pedro. L'animal effarouché était tombé exactement sur l'occiput du garçon, au centre de sa couronne en papier. Quand Pedro se rendit compte qu'il avait le Gecko dans les cheveux, il se mit à hurler. Le bruit fit sortir Consuelo de sa torpeur et elle se mit, elle aussi, à hurler. Juan Diego comprit plus tard que ce n'était pas le Gecko qui les avait mis dans cet état. Les deux petits Philippins étaient terrifiés à l'idée que Myriam allait de nouveau embrocher l'animal, cette fois directement sur la tête de Pedro. Juan Diego tendait le bras pour attraper le lézard quand l'enfant, pris de panique, envoya promener l'animal et la couronne au beau milieu de la piste de danse. Le batteur, celui avec des tatouages d'insectes sur les bras, écrasa l'animal d'un coup de pied, faisant gicler ses intestins sur le bas de son jean.
« Oh merde, dur dur !»
lança le joueur d'harmonica, celui au serpent et au lézard tatoué sur les bras. Le jeune guitariste au tatouage en forme de brûlure ne remarqua pas le Gecko écrasé. Il était occupé à régler les amplis et les enceintes et à ajuster le son. Mais Consuelo et Pedro avaient vu ce qui était arrivé au petit Gecko. Leur cri s'était transformé en plainte de protestation qui ne tarirent pas quand les babysitters les mirent au lit. Les hurlements avaient ramené les ados dans la salle, où ils avaient sans doute confondu les pleurs des enfants avec le premier morceau du concert. Quant à la chanteuse à l'allure cadavérique, elle contemplait avec philosophie le plafond au-dessus de la piste, s'attendant sans doute à voir d'autres geckos tomber. «
J'ai horreur de ces saletés, » dit-elle d'un ton détaché.
Elle semblait ne s'adresser à personne en particulier. Elle vit que le batteur tentait d'essuyer les restes du reptile sur le bas de son jean.
« C'est dégueulasse !»
Sa façon de prononcer ce dernier mot faisait penser qu'il s'agissait du titre de sa chanson.
« Je parie que ma chambre est plus proche d'ici que la tienne, » dit Myriam à Juan Diego, tandis qu'on éloignait les enfants horrifiés. « Ce que je veux dire, mon chéri, c'est que le choix du lieu où nous allons dormir va dépendre du niveau sonore que nous allons y subir. »«
Oui, » fut tout ce que Juan Diego put lui répondre. Il s'aperçut que tante Carmen ne se trouvait plus parmi les adultes restés à proximité de la piste de danse. Soit elle avait été emportée en même temps que les tables, soit elle était partie se coucher avant le départ des enfants. Elle devait être moins sensible au charme des Nocturnal Monkeys qu'à celui de sa murène apprivoisée. Il était vraiment l'heure de s'éclipser. Juan Diego se leva de table comme s'il ne boitait pas, ni n'avait jamais boité. De fait, comme Myriam lui prenait le bras, il avança en traînant à peine la jambe.
Vous ne restez pas jusqu'aux 12 coups de minuit pour arroser le nouvel an ? Lança Clark French à son ancien professeur.
Oh, on va l'arroser, faites-nous confiance,
répliqua Myriam, esquissant un geste nonchalant de la main.
Ficheur la paix, Clark, dit Josefa.
Juan Diego avait l'air à côté de la plaque, boitillant, la main sur le sommet de sa tête. Il se demandait où était passée sa couronne en papier. Ayant oublié que Myriam la lui avait retirée, de même que la sienne, d'un mouvement discret. Arrivés à l'étage, ils entendirent la musique du karaoké provenant du nightclub de la plage. Elle était à peine audible depuis la terrasse de l'Encantador, et ne risquait pas de concurrencer le son cataclysmique des Nocturnal Monkeys, le rythme puissant de la batterie, l'agressivité pugnace de la guitare, et le gémissement pathétique de l'harmonica, telle la plainte d'un fauve blessé. Quittant la terrasse avec Myriam, Juan Diego ouvrit la porte de sa chambre au moment où la gamine à l'allure de morte vivante entamait sa première chanson. Dès qu'il eut refermé derrière eux, les Nocturnal Monkeys se fondirent dans le doux ronronnement du ventilateur de plafond. On n'entendait plus qu'un bruit indistinct. À travers les fenêtres ouvertes, le vent venait de la terre. Seule la chanson insipide du karaoké accompagnait le bruissement du ventilateur. « Pauvre fille, » dit Myriam, parlant de la chanteuse des singes de la nuit, « on croirait qu'elle est en train d'accoucher ou de se faire éventrer.
C'était exactement ce qu'il